chercheur à l'honneur. En 2025, la Fondation Michel Serres, Institut de France, a distingué le travail de 6 chercheuses et chercheurs pour leur thèse interdisciplinaire. Ils présentent leurs travaux sur la plateforme de podcast de l'Institut de France. Vous écoutez le 6e et dernier épisode de cette série.
Pourquoi les humains sont-ils fascinés par les animaux qui jouent? Et que dit cette fascination sur notre propre rapport à la liberté et aux animaux? C'est une question profondément originale à laquelle s'est intéressé Vincent Duquesne. Il en a même fait une thèse reconnue et saluée par la Fondation Michel Serres. Vincent Duquesne, bonjour. Merci et bienvenue au studio de l'Institut.
Merci.
Alors, vous faites partie des nominés 2025 du prix de la Fondation Michel Serres. Avant de parler de votre thèse, racontez-nous un petit peu votre parcours. Vous avez commencé par faire de la philosophie, c'est ça?
Oui, tout à fait. Alors, je fais des études de philosophie, puis après, j'ai passé les concours.
Mm-hmm.
Et puis, donc après, je l'ai enseigné pendant 25 ans. Ça fait à peu près 25 ans que j'enseigne la philosophie dans le nord de la France.
Et à côté, vous avez donc fait...
C'est ça, une thèse, tout à fait.
Une enquête très fouillée autour de ce qu'on appelle l'animal ludens, en français le jeu animal. Alors, on devine sans trop savoir ce que c'est précisément. Qu'est-ce que c'est que le jeu animal?
Alors, le jeu animal, ce qui est amusant, c'est qu'on n'a pas pensé tout de suite à le définir.
Mmh.
Il a fallu attendre le 20e siècle pour qu'il y ait un scientifique qui se penche sur la question et qui se dise, comment on peut être sûr que c'est un jeu? Et donc, en fait, ce scientifique, il a mis au point plusieurs critères. Donc, si par exemple, il fait une action répétitive qui n'a pas d'utilité, dans sa survie, si on voit qu'il prend du plaisir à cette activité, donc il énonce comme ça 5 critères. Si ces 5 critères sont réunis, on peut dire que l'animal joue. La limite, c'est qu'on ne reconnaît les jeux animaux que dès l'instant où ils sont proches de nos catégories humaines.
Mmh.
Peut-être qu'il existe des formes de jeux animaux qu'on a du mal à appréhender parce qu'ils sont trop éloignés de nous.
Mmh. Comment il s'appelle ce philosophe qui a défini ce qu'on appelle le jeu animal?
C'est un scientifique, c'est Gordon Burghardt. Il a écrit un gros livre qui n'est pas traduit en français sur le jeu animal. Et en fait, lui, sa question, c'était vraiment de savoir quels étaient les animaux qui jouent, quels étaient les animaux qui ne jouaient pas. Est-ce qu'on pouvait dire que les invertébrés, par exemple, jouaient ou pas? Et donc, en fait, c'est une réflexion assez profonde qui part de la science et qui a des conséquences philosophiques.
Alors vous citez pas mal d'animaux connus pour leur jeu, leur comportement ludique, notamment le dinosaure.
Le dinosaure, oui. Alors je voulais vraiment commencer par là parce qu'il y a eu une petite discussion qui est partie d'un scientifique. En fait, il s'est intéressé à un condyle occipital d'un tricératops. Donc en fait, c'est une forme sphérique.
D'accord.
Et donc en fait, il s'est dit, tiens, pourquoi le tyrannosaure a laissé des traces dedans? Bon. Et il a fait l'hypothèse que c'était sans doute parce qu'il s'en était servi comme balle pour jouer.
Mmh. Hein.
Et donc, en fait, évidemment, c'est un petit peu moqué. Il y a eu, dans le petit monde de ceux qui s'intéressent aux dinosaures, toute une querelle pour savoir est-ce qu'on pouvait vraiment dire, d'un point de vue scientifique, que le tyrannosaure jouait. Bon, peu importe qu'on puisse démontrer scientifiquement que le tyrannosaure a joué ou pas, mais ce qui est certain, c'est qu'on a du mal à imaginer pourquoi les dinosaures ne joueraient pas. Imaginer un monde animal sans jeu, c'est assez difficile. Donc en fait, moi, j'ai plutôt posé la question inverse. Comment imaginer plutôt des dinosaures qui ne joueraient pas, quoi.
Vous avez d'autres exemples d'animaux comme ça que vous avez étudiés?
Alors en fait, oui, il y en a pas mal, d'autant plus que vers la fin de ma thèse, moi ce qui m'a intéressé, c'est pourquoi les humains étaient fascinés par des animaux qui jouent. Et donc en fait, le premier, la star, c'est le chat. Qui reste le number one. Peut-être même c'est l'explication pourquoi le chat s'est imposé dans nos foyers et a tendance à dépasser le chien. Par exemple, en France, il dépasse le chien. Et en fait, on soupçonne que le grand succès du chat, dont on dit qu'il n'a pas été réellement domestiqué comme le chien, qui est passé du loup au chien, le chat, on a fait quand même l'hypothèse scientifique qu'il est resté à peu près tel quel. Le chat, s'il s'est imposé dans nos intérieurs et s'il est devenu l'animal de compagnie numéro un, c'est, en tout cas j'en fais l'hypothèse, à cause de son potentiel ludique.
Mmh.
On le retrouve jusqu'à aujourd'hui dans les vidéos, les mêmes. Après, il y a d'autres animaux, je dis qu'ils ont été un petit peu sauvés parce qu'on a retrouvé leur potentiel ludique. Je pense par exemple à la loutre. La loutre, elle a failli disparaître en France. Et finalement, ce qui a assuré sa survie, c'est qu'à un moment, on s'est dit, tiens, voilà un animal qui sait jouer. Alors, on s'en est rendu compte en captivité parce qu'elle passe habituellement le plus clair de son temps à chasser,
mmh.
Et puis après à se reposer d'avoir chassé. Là, comme on lui fournit de quoi manger, il lui reste énormément de temps libre et durant son temps libre, elle joue. Et ça, évidemment, ça a fasciné les gens et ça a changé le regard. hein, sur la loutre.
Et ça, c'est vraiment ce que vous avez cherché à mettre en avant dans votre thèse, c'est cette fascination des hommes pour le jeu animal.
Tout à fait. Et puis aussi, un paradoxe, comment expliquer que d'un côté, ils puissent les maltraiter autant et oui, d'un autre côté, être fasciné par leur jeu, et comment il arrive à vivre avec cette contradiction et ce qu'il en fait. Et c'est ça qui m'a amené à m'intéresser au fait que les hommes avaient entraîné les animaux dans des jeux qui en réalité ne sont pas très ludiques, comme les jeux du cirque chez les Romains, par exemple. Mais en fait, c'était une façon pour eux de surmonter cette contradiction, hein, d'avoir des animaux joueurs, mais à leurs conditions. C'est un petit peu ça que j'essaie de démontrer, c'est que, en fait, les hommes voudraient des animaux joueurs, mais à leurs conditions, quitte à peut-être les couper de leur milieu, puis après recréer artificiellement un jeu, un petit peu comme ce qui peut arriver dans des zoos, parce que quand on se promène dans un zoo, ce qu'on attend, c'est de pas voir des animaux qui soient apathiques, mais des animaux qui sont en train de se déplacer et, si possible, en train de jouer.
Dans le cadre de ce travail, vous avez croisé plusieurs disciplines, alors non pas deux disciplines, mais trois, en tout cas au moins trois.
Au moins trois, oui.
La philosophie, l'histoire de l'art, l'histoire des sciences.
Au départ, mon intention n'était pas de croiser toutes ces disciplines, mais la question que je posais, celle du jeu animal, j'ai vraiment été amené à me dire comment on a représenté les animaux, est-ce qu'on les a plutôt représentés en liberté. Donc c'est ça qui m'a amené à aller du côté de la préhistoire. Après, je me suis posé la question, est-ce que c'est vrai qu'en Europe, donc j'ai été en Chine ou en Corée ou au Japon pour voir quel rapport ils avaient avec les animaux et comment ils les représentaient. Est-ce qu'ils les ont eux aussi représentés en train de jouer ou est-ce que c'est quelque chose qui serait propre à l'Europe ou au monde occidental ? L'histoire des sciences, j'ai forcément été amené à m'y intéresser parce que quand je suis entré dans la question du tyrannosaure, je me suis dit, allez, on va vraiment traiter la question à fond et se demander pourquoi les tyrannosaures mordent. Et en fait, finalement, quand on regarde les scientifiques, ils nous disent beaucoup de choses intéressantes. Ils nous disent que le tyrannosaure, contrairement à ce qu'on pensait, c'est un animal plutôt social. On a découvert il n'y a pas très longtemps qu'il vivait, peut-être qu'il chassait à plusieurs et que donc il devait y avoir un chef, que peut-être il s'amusait à mordre les plus jeunes pour dire c'est moi qui domine, et que donc peut-être que c'est la morsure qu'on avait trouvée sur le condyle occipital, ça pouvait s'expliquer aussi pour des raisons ludiques. Hein. Mmh. Il fallait pouvoir montrer que pour quelles raisons le tyrannosaure pouvait mordre. Si après je m'intéressais à la question de savoir si le diplodocus jouait, il fallait forcément que j'aille voir du côté de la science pour me dire qu'est-ce qu'elle en dit, est-ce qu'il reste du temps pour le diplodocus pour jouer, comment il aurait survécu sans jouer, etc. etc. Donc cette dimension de l'éthologie ou des fois de la paléologie, il fallait absolument que j'y aille, quoi.
Mais c'était pas trop difficile justement pour un philosophe de formation comme vous de vous plonger dans des matières, dans des disciplines plus scientifiques?
Si, et on a toujours un peu le sentiment au départ qu'on est illégitime et on a besoin d'en faire deux, voire trois fois plus. Il y a déjà ce besoin d'exhaustivité parce que j'ai vraiment cherché la totalité des sources qui parlaient des jeux chez les dinosaures, hein, avec toujours une sueur froide en me disant peut-être je suis passé à côté d'un scientifique. Donc il y a toujours un peu ce sentiment d'être illégitime, que ce soit en histoire de l'art qui fonctionne avec sa méthodologie. Mais je me suis dit que comme mon objet d'étude était très restreint, si je m'assurais toujours de m'appuyer sur les bonnes personnes, au final, je risquais pas de me tromper. Il fallait quand même que j'ose ça, que c'était plus intéressant finalement de donner un peu d'amplitude à la question du jeu animal, puis de montrer que c'était une question qui était plus large que ce qu'on pensait, que c'était pas uniquement les vidéos de chats sur internet ou les mèmes, mais que ça remontait finalement, que c'est une question qui remontait aux dinosaures et qui se posait encore à nous aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, si on devait retenir un enseignement de votre thèse, une information que vous souhaiteriez que l'on comprenne, qu'est-ce que ça serait ?
C'est peut-être qu'on laisse davantage les animaux un petit peu plus libres pour pouvoir jouer plutôt que de vouloir recréer artificiellement un jeu. Je pense que c'est ça l'enseignement, parce que ce que je dis souvent, je ne suis pas le premier à le dire, Freud le disait déjà, c'est qu'en fait, on ne connaît pas tant les animaux que ça. Hein. Et c'est vrai que quand on regarde toutes les études sur le jeu animal, on se rend compte que quand on se pose une question, tiens, une loutre, quand elle est en liberté, elle joue combien de temps on ne sait pas dire. En fait, il y a plein d'animaux comme ça. On ne sait pas dire. On ne sait pas dire parce qu'on ne les connaît pas. On les connaît autrement. On connaît la vache pour obtenir de la viande, mais est-ce qu'une vache, ça sait jouer avec une balle ? Voilà. Hein. Est-ce qu'un oiseau, ça joue ? Est-ce qu'une fourmi, ça joue ? Et c'est là qu'on s'aperçoit que finalement, on ne le sait pas. Et on ne le sait pas parce qu'on ne s'y intéresse pas réellement.
Il y a encore plein de mystères à résoudre.
Exactement.
Alors vous, en revanche, vous êtes assez proche d'un animal en particulier. Un animal que vous aimez beaucoup, c'est votre chatte, je crois bien.
Elle s'appelait Pikachu. Et en fait, c'est un peu elle qui a déclenché l'idée de la thèse parce qu'elle avait des chatons. Et un de ces quatre, je l'ai vu amener... alors, c'est un Swiffer. Elle l'a amené au chaton pour qu'il joue. Et en fait, ça a été un petit peu un électrochoc parce que je me suis dit, elle veut transmettre le jeu. Et en fait, je n'avais jamais été témoin de ça. Hein, et je ne sais pas si d'autres chats le font, hein, d'ailleurs. Hein, c'était cette chatte que j'avais qui le faisait. Et en fait, c'est ça qui m'a donné l'idée de travailler. Donc, c'est pour ça que j'écris que j'ai été poussé par une patte invisible. Et à chaque fois que j'avais un petit coup de mou, il suffisait que je sorte de chez moi, que je vois les trois perruches. Et je me disais, ah ouais, il faut que je retravaille ma thèse. Mmh. Donc, voilà, j'ai un peu la sensation d'avoir été poussé par les animaux eux-mêmes à faire cette thèse.
Et ben, un grand merci à Pikachu et à vous quand même, Vincent Duquesne, pour tout ce travail. Je rappelle le titre exact de votre thèse, « Les hommes face à l'animal ». Ludens, enquête philosophique sur la représentation des animaux qui jouent. Et pour les auditeurs qui souhaitent en savoir plus, on mettra les ressources que vous avez en ligne. Merci.
Merci.
Les podcasts de l'Institut de France.